il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant dans RFI Soir et c'est avec vous Jean-Philippe Dubrulle. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'IFOP, spécialisé dans les études politiques et les intentions de vote. Et une candidature de plus dans la course à la présidentielle, ou plutôt il s'agit d'une confirmation, c'est l'ancienne ministre socialiste Christiane Taubira qui se positionne.
Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de moraliser, de caporaliser. Pour toutes ces exigences, d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences, d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, je suis candidate à la présidence de la République.
Une candidature de plus à gauche et la seconde au sein du Parti Socialiste, d'où cette réaction de Anne Hidalgo sur BFM TV.
Pour rassembler, il ne fallait pas ajouter une candidature supplémentaire. C'est une candidature de plus, donc c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui cherchent l'union de la gauche, qui cherchent à rassembler, et voilà. Et je crois que ça crée de la confusion.
Autre candidat de gauche, Yannick Jadot, pour les écologistes. Il s'exprimait tout à l'heure au grand jury RTL.
Moi, ce que je veux faire dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guéguerre avec la vieille gauche ou au sein de la vieille gauche. Moi, il y a 5 ans, quand la situation politique, c'était que je me retire au profit de Benoît Hamon pour nous donner une chance, j'ai pas fait appel à une primaire. Donc, ce que je dis aux socialistes, prenez, venez, rejoignez-nous avec vos idées, vos projets, votre histoire et faisons de l'écologie le grand moment de cette élection présidentielle et la victoire de 2022.
Et au passage, Yannick Jadot annonce vouloir renationaliser EDF, Électricité de France. Jean-Philippe Dubrulle de l'IFOP, que représente Christiane Taubira dans l'électorat tel que l'analyse les sondeurs et donc votre institut ?
Alors, dans le cadre du sondage Rolling, c'est-à-dire une intention de vote que nous actualisons, et publions chaque jour, dans l'hypothèse d'une candidature de Christiane Taubira, celle-ci recueille entre 3,5 et 4,5% des intentions de vote. Alors, c'est un petit peu plus que sa rivale Anne Hidalgo, qui, elle, recueille 3 à 3,5 points, et c'est pas très loin, finalement, du candidat des Verts, Yannick Jadot, qui est entre 5,5 et 7% des intentions de vote. Malgré tout, parmi les nombreux candidats à gauche, celui qui reste en tête depuis un certain nombre de mois déjà, c'est Jean-Luc Mélenchon, crédité d'environ de 8,5 à 9,5% des intentions de vote.
Nombreux candidats à gauche, venez-vous de dire. Admettons que la gauche soit un gâteau, il y a combien de parts ?
Alors, des parts, avec Christiane Taubira qui vient de s'y ajouter, ça nous en fait 8. Si l'on compte Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à l'extrême gauche, Fabien Roussel du Parti communiste, et ceux que nous avons cités, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, sans oublier Arnaud Montebourg, lui aussi, venant du Parti socialiste.
Après tout, ça peut peut-être dire qu'à gauche, il y a une dynamique, il y a des idées, il y a des personnalités. Au final, le gâteau, il est gros ce gâteau ?
Et non, et malheureusement, il est très petit. C'est la c'est le paradoxe, c'est un peu la tragédie de la gauche, c'est-à-dire qu'elle est d'un côté morcelée en de nombreuses candidatures, mais en plus, le pactole, le gâteau, est assez petit. Prenez tout simplement un chiffre. Hein. Si on additionne toutes les intentions de vote pour la gauche à cette élection présidentielle, on peine à arriver à un quart, à 25%. Macron, à lui tout seul, fait autant, mais surtout, comparé au passé, en 2012, par exemple, tous les candidats de gauche, au premier tour de la présidentielle, cumulaient à 44% des voix. Aujourd'hui, dans les sondages, je vous le disais, c'est à peine 25%.
Vous citiez Emmanuel Macron, qui avait fait sa campagne précédente sur le « en même temps », c'est-à-dire en même temps à gauche, en même temps à droite. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la gauche dans le macronisme ?
Dans le macronisme, dans la politique appliquée, on peut laisser cela aux différents commentateurs, mais ce que je peux vous dire, moi, en termes électoral, en termes de vote et d'individus, c'est qu'il y a, en effet, une part importante des anciens sympathisants du Parti socialiste qui sont allés, qui ont suivi la promesse d'Emmanuel Macron, qui sont allés avec lui et qui sont restés avec lui depuis, en dépit d'une certaine forme de droitisation de sa politique qu'on a pu constater. Je vais vous donner une autre statistique extrêmement parlante. Comme je vous l'ai dit, en vue de la présidentielle, on n'a qu'un quart des électeurs qui nous disent qu'ils voteraient pour un candidat de gauche. Mais quand on demande à l'ensemble des Français s'ils se sentent de gauche ou de droite, il y a environ 45% des gens qui nous disent avoir une sensibilité de gauche. On a 20 points de différence. Ces 20 points, où sont-ils? Où se sont-ils évaporés? Pour partie chez Macron, c'est une certitude, mais une partie également désabusée, peut-être, par l'offre politique à gauche, ne vote pas pour ces candidats-là.
Alors, dans cette campagne pour la présidentielle, la polémique du moment est une fois de plus du fait de ce qu'a dit Éric Zemmour. Il s'est attiré une bronca générale après avoir dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés, mentaux, et défendu des établissements spécialisés pour les scolariser. Anne Hidalgo fait partie de ceux qui critiquent le candidat d'extrême droite.
L'horreur de ses propos, n'allait pas chercher des excuses à ses propos inadmissibles. Enfin, ces propos-là, il dit l'obsession d'inclusion, il veut quoi? Il veut une société d'exclusion, une société de violence, parce que l'exclusion, c'est la violence. Il veut une société dans laquelle on soit encore plus violent et brutal vis-à-vis des plus fragiles et notamment des enfants en situation de handicap. Il veut quoi? Une société dans laquelle on ne respecte plus la loi, parce qu'il y a une loi, la loi de 2005, la loi Chirac sur la question de l'accessibilité universelle. Il veut quoi?
Du coup, fallait-il corriger le tir pour Éric Zemmour? En tout cas, l'intéressé a tenu à préciser sa pensée aujourd'hui sur l'antenne de France 3.
On a pris une phrase dans une discussion comme ça à bâton rompu et on en a fait une polémique. Ces enfants, il faut soit les mettre dans des classes spécialisées au sein des établissements normaux, ordinaires, c'est-à-dire les fameux ULIS. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai voulu dénoncer? Sous le prétexte de l'inclusion à tout prix, on ferme de nombreux établissements spécialisés parce que le coût d'un enfant dans un enseignement ordinaire, c'est 6 000 euros. Le coût dans un établissement spécialisé, c'est entre 30 000 et 70 000 euros. Donc l'éducation nationale fait des économies sur le dos des enfants et des enfants qui souffrent le plus.
Jean-Philippe Dubrul, donc directeur d'études à l'IFOP. Ce début de campagne est marqué par des polémiques. On vient d'entendre celle-ci. Il y en a une par semaine au moins. Comment cela se fait?
Dans la perspective de cette élection présidentielle, on se trouve dans ce que j'appellerais un moment à vide. Tout simplement parce que on commence à peine, ces derniers jours, à voir les différents candidats décliner, exposer leur programme. Il faut se souvenir que du coup, ça fait depuis quand qu'on sait qu'il va être sur la ligne de départ? Depuis le 5 décembre dernier, avec la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains. Autrement dit, depuis début décembre dernier jusqu'à maintenant où les programmes commencent à apparaître, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Or, rappelons-nous, je donne le cas de 2017, où le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, n'est connu que fin janvier. Fin janvier, période à partir de laquelle on était déjà dans les programmes et où finalement donc, ce temps vide propice aux polémiques permanentes était extrêmement réduit comparé à cette année.
La polémique, est-ce que c'est un moyen d'exister pour faire parler de soi dans une société du buzz et du clash, à commencer par ce qui se passe sur les réseaux sociaux?
Alors, bien sûr, je rejoins complètement ce que vous dites là. Le buzz est un moyen d'exister au moment où finalement les flux d'informations n'ont jamais été aussi rapides, jamais aussi immédiats et, il faut bien l'avouer, expéditifs. Maintenant, la polémique, elle peut être stérile, elle peut être outrancière, elle peut être tout cela et en même temps, vous allez voir que c'est pas anodin comme expression, et en même temps utile en termes tactiques. Et à ce titre-là, on peut parler de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui lui-même disait vouloir bien emmerder, je cite, les non-vaccinés. Une polémique en est née, mais quel était l'objectif de cette polémique? C'était de polariser le débat, de se poser en tant que, je cite encore une fois, la majorité quand il a de la raison, versus les oppositions les plus remontées à l'égard de la politique sanitaire du gouvernement, et faire que une certaine candidate dont le parti avait une position d'équilibre sur la question, Valérie Pécresse, eh bien, s'est retrouvée un petit peu dépassée par ces polémiques. Donc voilà, ça c'était un objectif d'Emmanuel Macron, et il a utilisé la polémique pour un gain politique.
Emmerder les non-vaccinés, disait le président de la République. Et bien du coup, il y a moins d'une heure, les députés ont adopté en seconde lecture le pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire. Adrien Quintens, interrogé sur RFI à la fin du grand meeting que donnait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon à Nantes.
Considérer, on le voit bien, que le vaccin serait la seule solution est une erreur qui nous met dans une impasse. Raison pour laquelle d'ailleurs on voit le niveau de l'épidémie aujourd'hui, y compris parmi les personnes qui sont vaccinées. Donc en fait la stratégie elle est globale, elle passe bien sûr par la vaccination, mais elle passe aussi par de l'équipement purificateur d'air, du fait de fournir gratuitement, comme nous l'avons fait aujourd'hui dans notre meeting, des masques FFP2. On ne peut pas être uniquement avec ces solutions binaires que nous propose le gouvernement avec une forme d'autoritarisme que plus personne ne goûte.
Quant à Yannick Jadot, qui est le candidat écologiste pour l'Élysée, il s'est exprimé sur ce sujet. Il pointe toute la politique sanitaire du président de la République.
Le pass vaccinal et l'insulte du président de la République, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait de sa politique de santé un référendum pour ou contre lui. C'est extrêmement dangereux.
Donc pour vous, il instrumentalise dans la situation cette crise ?
Mais bien sûr qu'il instrumentalise cette crise.
Il y a aujourd'hui dans le journal du dimanche un sondage IFOP qui concerne justement le pass vaccinal, Jean-Philippe Dubrulle. Quelle en est sa teneur, ses résultats ?
Alors sur le pass, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal voté aujourd'hui, eh bien, nous avons posé cette question juste avant le week-end à l'ensemble des Français, et 58%, une majorité, donc 58% se déclaraient favorables à cette arrivée du pass vaccinal. C'est beaucoup, c'est une majorité, mais attention, c'est quand même 5 points de moins que la même question posée il y a à peine une semaine ou 10 jours. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'échéance, finalement, et moins le soutien, enfin plus le soutien s'amenuise. Voilà, ça c'est à l'échelle de l'ensemble des Français. Après, il y a quelque chose que l'on constate, c'est que chez les sympathisants de la République En Marche, qui soutiennent toujours très fortement l'exécutif, quasiment tous sont pour ce pass vaccinal. Or, si on regarde un peu plus loin sur l'échiquier politique au deux bords, eh bien les sympathisants de la France Insoumise à gauche, les sympathisants du Rassemblement National à droite, n'y sont favorables qu'à 55 et 53% respectivement.
À retrouver donc ce sondage IFOP dans le journal du dimanche. Merci Jean-Philippe Dubrulle pour ses analyses et commentaires, directeur d'études à l'IFOP, spécialisé dans les études politiques et les intentions de vote. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir sur RFI.